Le langage et la pensée. C'est le thème du dialogue de ce soir qui réunit François Lhermitte, professeur à la faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie nationale de médecine et chef du service de neurologie et de neuropsychologie à la Salpêtrière. Et Marc Richel, qui est titulaire de la chaire de psychologie expérimentale de l'Université de Liège et qui est l'auteur, entre autres, de trois ouvrages, « Le conditionnement opérant », « Pourquoi les psychologues ?» et « Les conduites créatives, une exploration expérimentale ». Le langage et la pensée. François Lhermitte.
Si je me permets d'ouvrir ce dialogue, ce n'est pas du tout en fonction de mes compétences, mais c'est parce que, étant français, je suis très heureux d'accueillir le professeur Marc Richel, qui sûrement a des connaissances beaucoup plus approfondies sur les rapports entre le langage et la pensée dans le monde vivant que moi-même. Mais ce dialogue peut avoir un intérêt, c'est qu'il va mettre côte à côte deux hommes dont la formation intellectuelle et professionnelle est a priori franchement différente. L'un est un psychologue formé donc par les facultés ou universités de sciences humaines. Il s'intéresse principalement, mais pas exclusivement, mais principalement à l'homme normal, à son développement, à ses acquisitions, alors que, étant médecin et étant neurologue, il est bien clair que le point de départ de mon intérêt dans un sujet comme celui-ci s'attache à une certaine population d'enfants ou d'adultes qui, par suite de lésions du cerveau dans telle ou telle partie, a comporté une entrave au processus de la conception idéique comme une entrave au processus de la formulation verbale. C'est dire que ma position est un peu distincte de celle du professeur Marc Richel, du moins au départ de ce dialogue, et peut-être trouverons-nous quelques points à la fois de convergence et d'opposition. Il me semble que, maintenant pour entrer dans le vif du sujet, moi il me serait particulièrement agréable d'entendre de la part d'un homme qui représente une discipline désormais scientifique, et non pas d'une discipline imprégnée de croyances ou d'idéologies révélées, il me serait très intéressant de savoir ce qu'il pense d'une définition la plus libérale, je dirais, possible de ce que sont les activités de langage et de ce qu'est la pensée.
Marc Richel.
Très difficile. Il fut un temps où dans certains dictionnaires on définissait le langage comme un moyen d'expression de la pensée, ce qui est peut-être une manière très simple d'éluder votre question. Je ne crois pas que la psychologie scientifique aujourd'hui dispose d'une définition de la pensée, non plus que d'une définition du langage. Derrière le mot pensée, comme derrière le mot langage, qui tous deux sont empruntés à notre façon courante de parler, sont des mots que nous traînons derrière nous, ce ne sont pas des concepts qui ont été forgés par la science, ils nous viennent de la nuit des temps, n'est-ce pas ? Quand on parle de pensée, je crois qu'en psychologie scientifique, on évoque toute une série de conduites qui vont depuis ces conduites que l'on trouve déjà chez l'animal, lorsqu'on parle d'intelligence manipulatoire, d'intelligence pratique, même de simple conduite de détour d'un animal qui contourne un obstacle pour atteindre un but. Jusqu'aux réflexions du mathématicien et du philosophe. Tout ça, c'est la pensée, mais nous sentons bien tout de suite que ce sont des niveaux très différents de la pensée. De même, quand on parle de langage, on pense bien sûr d'abord langage humain, et c'est ce langage humain qui nous intéressera tout particulièrement ce soir. Mais on sait que à l'intérieur même de l'espèce humaine, il y a toutes sortes de niveaux de langage. Il y a des langages gestuels, il y a des langages par signes, il y a des langages par toutes sortes d'autres moyens d'expression artistique, par exemple. Et si nous descendons en deçà de l'espèce humaine, nous rencontrons sans doute quantité de choses auxquelles, à tort ou à raison, mais on a quand même appliqué le terme langage. On trouve des systèmes de communication chez l'animal, on trouve des toutes sortes de conduites qui ont des points communs avec le langage humain. Et alors, il est évident que ces points communs ne suffisent pas à rendre les choses tout à fait équivalentes. Et c'est à travers peut-être l'analyse de problèmes plus concrets que nous allons voir la difficulté de définir ces deux entités.
Oui, alors c'est une position moi, qui me conforte. Encore que la difficulté de définir est toujours un obstacle que l'esprit humain rencontre. Dans mon expérience, la difficulté de définir ne tient pas tellement à la définition de ce qui constitue le centre d'un domaine intellectuel ou affectif ou idéique qu'on peut appeler la pensée, ou le centre de ce que l'on appelle fondamentalement et ce que tout le monde reconnaîtra comme langage, mais plutôt la difficulté de définir les frontières. Or, la définition des frontières me paraît toujours un problème un petit peu arbitraire, ou en tout cas artificiel. Vous êtes de Liège, et pourtant vous êtes de cœur français. Où est la frontière entre nos deux affectivités, nos deux pays? Tout ça est quelque peu artificiel. Si je prends la pensée, il est clair que on sait très bien ce que c'est que la pensée humaine. La cerner et la délimiter, moi je me refuse à entrer dans ce faux problème. Mais je pense que les uns et les autres n'avons pas beaucoup de doutes sur ce qui fondamentalement appartient au domaine de la pensée. La même chose pour le langage de l'homme. Alors c'est plus difficile lorsque, descendant de l'homme, on se dirige à rebours dans l'évolution phylogénétique dans le monde animal. Je ne pense pas du tout qu'à l'heure actuelle, quiconque mette en doute le fait que la pensée existe chez les animaux. Le fait même d'apprendre à partir des vertébrés, a fortiori chez les mammifères, est une capacité qui, tout de même, ressortit bien au domaine de l'intelligence et de l'adaptation au monde extérieur et des processus de la connaissance, mettons des processus cognitifs. Quant à fixer la limite en deçà de laquelle il n'est pas de chose mentale et au-delà de laquelle elle apparaît, alors évidemment, moi je m'y refuse, je crois que ça n'a aucune importance, et que tout ce que l'on peut dire, c'est que à mesure que l'on s'avance dans l'échelle et dans l'évolution phylogénétique, plus un comportement semble complexe et plus il paraît comporter un aspect mental. Alors, quant au langage, moi, je m'engagerai, si vous voulez, un peu plus catégoriquement que vous. Il est clair que, dans le monde animal, il existe des systèmes de communication, mais je crois que ces systèmes sont totalement différents du langage humain et que l'homme est le seul à posséder ce type de langage. Et les deux caractéristiques qui me paraissent essentielles dans le langage humain par rapport à tous les autres modes de communication qui existent même entre les hommes, par l'intermédiaire des feux de signalisation de la route ou des signaux du code de la route qui, peuvent être appelés un langage, mais dans une acception extraordinairement large, je crois que les deux caractéristiques sont les suivantes du langage humain. La première, c'est que pour le petit cerveau, et étant neurologue, il est évident que je suis très sensible à la contrepartie matérielle de toutes nos facultés mentales. Pour le petit cerveau qui vient au monde, il se trouve placé dans une sorte de bain linguistique qui, selon sa naissance, sera le français, l'anglais, l'allemand, le chinois, le russe, etc. Pour lui, ce sont des signes qui sont totalement arbitraires. Alors, bien sûr que par rapport à l'histoire de la langue, ces signes ne sont en aucune façon arbitraires. Ils sont la poursuite logique de l'évolution des choses depuis des dizaines de milliers d'années. Mais pour le petit cerveau, il les reçoit aussi simplement qu'il s'agisse du russe, qu'il s'agisse de l'anglais, du français ou d'une autre langue. Ça, c'est déjà une très grande différence par rapport à tous les systèmes de communication des animaux qui sont des systèmes universels. Qu'une abeille naisse au Japon, en Europe centrale ou aux États-Unis d'Amérique, ce sera toujours, et par voie héréditaire, le même système qui, effectivement, émet des signaux qui seront reçus par les autres comme étant chargés d'une certaine information. Et puis la deuxième différence, c'est que pour l'homme, parler, c'est tout de même répondre à un besoin qui est celui de s'exprimer. Donc, je reconnais volontiers, peut-être de façon excessive, que le langage exprime une intentionnalité qui est celle de communiquer à quelqu'un d'autre un élément de sa pensée. Alors que, dans les systèmes de communication ou de transport d'informations entre les animaux, personne n'est capable de dire, à moins d'avoir tout d'un coup une révélation qui lui vienne du ciel, que tel frottement des élytres, ou que tel bruit, ou telle autre manifestation qui lui parvient, lui est adressée parce que elle répond à l'envie de communiquer une certaine information. Alors ce sont les deux éléments qui me paraissent, mettons, individualiser le langage humain par rapport à ce que par voie de raisonnement analogique, et souvent même de vision métaphorique, on appelle le langage, on appelle tout le langage, même le langage des ordinateurs, qui évidemment n'a plus rien à voir avec le langage humain. Alors moi j'aimerais savoir à ce sujet, premièrement si vous vous accordez sur la spécificité du langage humain, qui ne serait propre qu'à l'homme, et si vous acceptez cela, alors que pensez-vous des expériences qui depuis quelques 10 ans, ou 15 ans, se font aux États-Unis sur des chimpanzés et qui sont réalisés dans le but d'essayer d'introduire dans le cerveau du chimpanzé des montages qui seraient des montages assez proches, ou en tout cas qui en seraient l'ébauche, d'un langage qui serait comme le langage humain.
Marc Richel.
C'était une préoccupation extrêmement constante de tous ceux qui sont intéressés au langage dans ce dernier quart de siècle à peu près, je crois, que de trouver ce qui est le spécifique dans le langage humain. Ça reflète probablement une certaine inquiétude de la part de l'espèce humaine de garder quelque chose qui lui soit vraiment personnel, n'est-ce pas? Mais enfin, au-delà de ça, c'est une question scientifique sérieuse. Je vous suis très volontiers lorsque vous insistez, comme la plupart des linguistes et psycholinguistes, sur le caractère arbitraire du signe dans le langage humain. N'est-ce pas, on pourrait ajouter toutes sortes de caractéristiques que les linguistes ont très bien mises en évidence, notamment la double articulation de Martinet, qui peut être un des traits les plus spécifiques, les plus distinctifs du langage humain. Il reste que on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'homme serait le seul à avoir un langage de ce genre? Et c'est précisément par rapport à cette question que les expériences auxquelles vous venez de faire allusion sur les chimpanzés peuvent être extrêmement éclairantes. Les tentatives d'apprendre à parler aux chimpanzés ne sont pas toutes récentes. Les premières remontent aux années 20 et 30. Et les premiers essais nous apparaissent aujourd'hui un peu naïfs. Il s'agissait de spécialistes, psychologues, qui s'étaient mis en tête d'enseigner l'anglais à des chimpanzés. C'est bien sûr naïf, parce que pourquoi des chimpanzés seraient-ils particulièrement prédisposés à apprendre une langue naturelle humaine dans le type de structure qu'ils revêtent? Le succès ne fut pas grand, n'est-ce pas? Ils ont réussi à apprendre des choses qui phonétiquement ressemblaient à 2 ou 3 mots comme papa, tasse, cup, n'est-ce pas, etc. Plus tard et plus récemment, et ça a été l'intuition méthodologique des Gartner, aux États-Unis, de penser que c'était mettre le chimpanzé dans une situation beaucoup trop difficile que de lui faire prononcer des mots. Car nous ne devons pas oublier que si le langage peut être un outil de pensée, il a ses propres instruments. Ses propres instruments au niveau du cerveau, ça c'est essentiellement votre problème de neurologue. Mais il a aussi tous ses instruments périphériques, pas des organes vocaux extrêmement particuliers, une musculature faciale extrêmement différenciée, et dont le chimpanzé, bien qu'il soit notre plus proche voisin dans la hiérarchie des espèces, totalement dénué. La musculature faciale du chimpanzé est beaucoup plus simple, infiniment plus simple que la nôtre, n'est-ce pas? C'est donc lui demander quelque chose, j'allais dire, de surhumain, de sur-chimpanzé, n'est-ce pas, que d'arriver à prononcer des mots de langue naturelle humaine. Et ils se sont dit que le chimpanzé possédait une musculature manuelle qui lui permettait peut-être de reproduire des signes tels que ceux que l'on emploie dans l'espèce humaine lorsque les organes de la parole ne sont pas présents, lorsque les sourds-muets, par exemple, sont amenés à communiquer. D'où ces expériences extrêmement suggestives des Gartner sur l'apprentissage d'un langage par signes, et ils ont repris textuellement, si j'ose dire, n'est-ce pas, les signes de langage du sourd-muet américain, et ils sont arrivés avec leur fameux singe Wushu, qui est devenu maintenant un personnage légendaire dans la psycholinguistique contemporaine, ils sont parvenus à enseigner toute une série de signes qui sont très comparables à des signes de langage humain, si ce n'est qu'ils ne sont pas vocaux, bien sûr, n'est-ce pas, c'est peut-être une différence importante. Et ces signes, le singe semble capable de les recombiner, c'est aussi une chose tout à fait importante, c'est que les signes ne sont pas simplement répétés dans la combinaison où ils ont été appris, ils peuvent être recombinés. Par exemple, si on enseigne au singe à dire « donne-moi une banane » et puis par ailleurs à dire « donne-moi une orange et par ailleurs encore « apporte-moi l'orange » ou « mets l'orange dans mon panier », le singe est capable de reprendre une partie de ses chaînes pour fabriquer des chaînes nouvelles, par exemple « mets la banane dans mon panier », chose de ce genre. Hein. Le singe Wushu s'est montré capable de ce genre de recombinaison, encore très élémentaire, c'est pas encore comparable, bien sûr, à la richesse de la syntaxe humaine, mais c'est quand même un rudiment extrêmement intéressant. Une autre voie d'expérience qui me paraît encore plus éclairante, à la fois quant aux possibilités à soupçonner du chimpanzé, peut-être aussi quant à ses limites, sont les expériences de David Premack, dont le premier sujet était la célèbre guenon Sarah. Premack a été plus loin encore que les Gartner. Il s'est dit non seulement peut-être nous mettons le singe dans une situation difficile en lui demandant de prononcer des mots d'anglais, ce que les Gartner avaient déjà compris, mais nous le mettons peut-être dans une situation difficile en exigeant qu'il retienne une chaîne qui se déroule dans le temps. Or, c'est une caractéristique tout à fait fondamentale du langage humain, que Saussure avait très bien noté, pas, c'est une chaîne linéaire, ce sont des événements qui succèdent dans le temps. Or, pour que nous puissions saisir ou produire une phrase dans une langue naturelle, nous devons nécessairement avoir une certaine mémoire. Pas. C'est sans doute quelque chose qui sera directement sensible aux personnes qui connaissent l'allemand, pas, où on ne peut saisir le sens de la phrase que lorsque le verbe est donné, tout en fin de phrase. Mais pour n'importe quelle phrase de n'importe quelle langue naturelle, il faut bien sûr une certaine capacité mnésique. Et c'est peut-être aussi une chose qui est au-delà des capacités du chimpanzé. Raisonnement de Premack, eh bien, facilitons la tâche du chimpanzé, éliminons de la situation cette difficulté mnésique. D'où son idée de produire du langage devant le chimpanzé, de faire apprendre un langage qui soit en quelque sorte un langage écrit. Pas à base de lettres ou de syllabes, mais à base d'objets représentant des mots, pas représentant des choses, ce ne sont pas des objets figuratifs, ce sont des objets qui n'ont aucune espèce de rapport avec la réalité qu'ils représentent.
Non figuratifs.
Ce sont des signes au sens linguistique du terme, pas tout à fait arbitraire, que l'on dispose sur un tableau aimanté, de telle sorte qu'il reste toute la phrase, toute la chaîne de signes, reste présente visuellement pour le sujet. Ce qui, bien sûr, est un très gros avantage. Et dans ces conditions, on ne pourrait pas, dans l'espace du temps qui nous est imparti, donner le détail des expériences de Premack, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que le chimpanzé se montre, au-delà de ce qu'on soupçonnait jusque-là, capable d'opérations cognitives et qui sont sous-jacentes à toutes les langues naturelles. Ben, pas toutes les opérations cognitives sous-jacentes, n'est-ce pas ? Ce singe ne fait pas encore des hypothèses. Hein. Mais il fait d'abord des classifications, ou des rudiments de classification, et puis il fait des recombinaisons d'une manière encore plus évidente que le singe des Gartner. Il fait des choses qui commencent à ressembler à des négations. Bon, là, nous voyons que dans les chaînes animales, à condition d'y mettre les moyens, mais ces moyens sont artificiels, ils sont expérimentalement forgés, pas on arrive à des choses qui sont des ébauches de certains aspects, je dis bien de certains aspects, pas de tous les aspects, de certains aspects du langage humain. Alors on se pose la question, est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce que l'évolution phylogénétique aurait pu prendre une direction analogue dans l'évolution naturelle Si seulement les chimpanzés s'étaient trouvés peut-être en situation d'exploiter pour survivre ce genre de possibilités. Et actuellement, je crois que les expérimentateurs poursuivent dans ces deux directions pour voir si, à force d'y mettre les moyens, on ne parviendra pas à entraîner des singes, non seulement à apprendre un rudiment de langage de ce genre, mais à se le communiquer entre eux. Mais c'est encore un peu du domaine de la science-fiction, je conviens.
François Lhermitte.
Oui, ça c'est un fait très important. Je ne sais pas très bien, parce que tout n'est pas connu dans les expériences de Prémac, mais il y a deux points là où vous allez pouvoir peut-être, il y a peut-être même un troisième, vous allez pouvoir peut-être me répondre. La première chose, c'est que, vous l'avez dit, mais il faut le redire, c'est fondamental, ce langage d'une chimpanzée a été créé par des hommes, et non pas par la communauté des chimpanzés. Alors qu'il est bien clair que le langage de l'homme ne lui vient pas du ciel, ce n'est pas un présent de là-haut, mais c'est quelque chose que l'homme a créé, certainement à des fins utilitaires au départ, et puis ensuite, le langage s'est enrichi pour permettre le développement d'une pensée abstraite et de bien d'autres, accroissements des possibilités idéiques de l'homme. Alors que là, c'est tout à fait artificiel. C'est une sorte de plaquage expérimental sur l'animal. Et je vois assez mal, moi, c'est ça la question, je vois assez mal comment on pourrait réaliser les conditions expérimentales telles que la seule chimpanzée qui connaisse ce langage puisse l'enseigner à des petits chimpanzés qui, venus au monde, seraient là tout prêts à accueillir l'enseignement de la mère Sarah. Ça, je crois que c'est difficile. La deuxième question est la suivante. Étant donné qu'il y a des interactions très bénéfique entre langage et pensée, c'est une évidence. Bon, le langage sert à la pensée sert au langage, c'est clair comme tout, on ne peut pas disputer sur une telle évidence. Est-ce que vous croyez que les capacités d'apprentissage de cette chimpanzée se sont accrues du fait qu'elle a acquis, un peu artificiellement, quelque chose qui est l'ébauche d'un vrai langage? Et puis la troisième chose, c'était un peu pour faire sourire, mais j'ai entendu dire, je ne l'ai pas lu parce que tout n'est pas écrit, mais je l'ai entendu de la part d'un homme de science américain que la plus grande joie de Prémac, qui a donc éduqué cette chimpanzée, venait de ce qu'un jour, lui ayant refusé telle ou telle chose que Sarah lui demandait, Sarah a pris un symbole dans la cage ou dans le petit seau où étaient amassés les symboles, l'a plaqué sur le tableau magnétique. Et ce symbole voulait dire « espèce d'idiot ». Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est la plus grande joie de l'éducateur.
Marc Huchel.
J'ajoute pas être au courant de ce dernier détail des expériences de Prémac. J'ose espérer qu'il est exact.
J'ose, oui.
Ça veut dire qu'il est allé très loin. Ma première question, je crois qu'on est très loin d'avoir injecté à un individu animal ce qu'il faut pour qu'il soit à l'origine d'une culture linguistique. Si je peux vous livrer le secret de ma pensée, je n'y crois pas du tout. Ce que l'on cherche dans ces expériences, c'est d'établir les conditions du langage humain. Éventuellement, en retrouvant chez l'animal la présence de certaines de ces conditions, comprendre quelles conditions supplémentaires ont dû être présentes, ont dû être réunies pour que le langage humain se constitue. C'est maintenant des animaux qui ont acquis un petit peu de langage par ces méthodes artificielles, ont acquis en même temps ce que vous appelez plus de capacité d'apprentissage, mais vous voulez sans doute dire plus de pensée, de possibilité
pas
de
loin.
Pensée. Ça, c'est bien sûr un problème tout à fait essentiel, et ça nous ramène au cœur du sujet de ce soir. Vous avez dit avec... vous ne voudrez pas, si je vous accuse d'un peu de légèreté sur ce point. Vous avez dit que ça allait de soi, que le langage est au service de la pensée. La pensée trouve son support dans le langage. Bon, bien sûr que ça va de soi pour le sens commun. Mais enfin, il reste quand même la question de savoir si ces deux ensembles de choses, si difficiles à définir qu'elles soient, peuvent exister indépendamment l'une de l'autre. C'est ça le problème capital, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a possibilité d'un langage qui ne serait pas en même temps une pensée? Est-ce qu'il y a une pensée qui peut se passer du langage?
Oui, très bien.
Alors là, je me tourne vers le neurologue, parce que vous êtes peut-être de tous les spécialistes du comportement le plus privilégié, puisqu'il arrive, par les accidents de la nature ou de la culture, que vous ayez en face de vous des sujets, des patients, qui présentent peut-être cette situation exceptionnelle de parler sans plus penser ou de penser sans plus parler. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques données sur la neurologie moderne que nous présenter aujourd'hui
François Lhermitte.
Je pense que, en m'adressant cette question, vous avez fait essentiellement allusion à ce que l'on appelle l'aphasie. C'est le plus bel exemple qui soit et qui peut se résumer dans les termes suivants. L'organisation du cerveau est faite de telle manière que, sous l'influence d'un facteur qui est génétique, qui dépend donc de l'hérédité, des chromosomes, il y a une dominance hémisphérique. Ceci veut dire que l'essentiel des circuits qui vont concourir au langage, dont l'intégrité est nécessaire à l'accomplissement de cette fonction, vont se développer dans l'hémisphère gauche chez le droitier. Bon, c'est très clair, si on le sait, c'est pour des raisons toutes simples. Des lésions de la région temporale de l'hémisphère gauche entraînent une désorganisation plus ou moins importante, bon, qualitativement peut-être extrêmement variée selon les cas, parce que ce n'est pas une simple machine que celle qui permet de parler, ou celle qui permet le langage plutôt, mais désorganiseront donc de telle ou telle manière les activités linguistiques ou psycholinguistiques. Alors que l'on peut envisager n'importe quelle lésion touchant l'hémisphère droit, toujours chez le droitier, il ne s'ensuit jamais une désorganisation des systèmes psycholinguistiques. C'est donc dire que le langage, je ne dirais pas du tout qu'il est localisé dans l'hémisphère gauche, je dirais de façon, permettez-moi l'expression, plus subtile, que le langage ne peut se réaliser que dans la mesure où d'innombrables circuits qui sont, eux, localisés dans l'hémisphère gauche, sont intacts. Alors ça, c'est vrai. Et c'est vrai parce que c'est la vie médicale ou neurologique de tous les jours qui le montre. Alors, quel est donc l'état de pensée ou les capacités de pensée de ces sujets aphasiques? Là, il y a peut-être une première réflexion qu'il faut faire, c'est que ce n'est pas parce que le système de communication linguistique est totalement détruit, à savoir qu'un individu ne peut plus rien exprimer ou ne peut plus rien comprendre. Ce n'est pas pour autant que ces capacités psycholinguistiques sont de la même manière désorganisées. On peut imaginer des systèmes de la motricité qui interdisent toute expression verbale, alors qu'à l'intérieur du cerveau, bon, le langage est conservé. On peut imaginer aussi des systèmes qui détruisent toute possibilité de décoder les messages auditifs ou les messages écrits, de telle sorte qu'on ne comprend plus ce que l'on entend et on ne peut plus comprendre ce que l'on voit, sans pour autant que les systèmes qui sous-tendent ce qui est proprement linguistique soient détruits. Donc, qui sous-tendent les éléments mettant proprement linguistique par rapport à la pensée soient détruits. Mais ces pièges étant éliminés, c'est vrai que par un certain nombre de techniques qui sont au fond assez simples, on peut très très bien se rendre compte, dans la majorité des cas, si oui ou non, la valeur sémantique, c'est-à-dire la signification des éléments ou des unités linguistiques, est réellement désorganisée. Et dans ces cas-là, quelles sont les possibilités de pensée que possède encore le patient? Il n'est pas douteux que pour tout ce qui est pensée verbale chez l'aphasique, elle est grossièrement détériorée. On peut se rendre compte par un certain nombre d'épreuves. Par exemple, si l'on demande à ces patients de raconter une histoire comme celle du petit chaperon rouge. Je dis celle-là parce que dans notre monde occidental, elle est apprise dès l'enfance, elle persiste au moins très rudimentaire, même très tard dans la vie, et que, comme toute histoire, on peut la segmenter en une série de séquences comportant chacune une performance indispensable à la réalisation de la performance suivante. Autrement dit, sous le récit du petit chaperon rouge, il y a une trame logique qui persiste. Or, quand on demande à ses patients de raconter le petit chaperon rouge, même en corrigeant leurs erreurs, dont on sait que leurs erreurs sont dues à des changements de mots qui sont peut-être des espèces de des pièges, des instruments qui ne marchent pas pour l'expression de la pensée ou l'expression de ce qu'ils pensent, eh bien, même dans ces conditions-là, on met très bien en évidence qu'il y a une sorte de rupture des liens logiques de la pensée verbale. Ils anticipent certaines performances sans revenir en arrière pour se corriger, ou bien ils glissent du petit chaperon rouge sur un récit tout à fait différent de l'enfance, ou bien sur des préoccupations personnelles. Bref, toute la trame logique de la pensée verbale qui, chez un sujet normal, fait que, ayant sans cesse à l'esprit présent et le point de départ et le point de l'arrivée de l'histoire, il va plus ou moins rapidement parvenir par une suite d'étapes qui sont cohérentes à la fin du récit. Pour les optimistes, la grand-mère ou le petit chaperon rouge est sauvé par les bûcherons, et pour les pessimistes, le petit chaperon rouge est mangé par le loup. Alors, c'est vrai que là, il y a le mot incohérent, c'est un mot peut-être trop subjectif, mais il y a une rupture de la suite logique du discours, c'est-à-dire la pensée. Mais si on s'adresse à la pensée non-verbale, je sais bien qu'en prononçant ce terme-là, pensée non-verbale, je m'engage un peu. Je voudrais par exemple citer les échecs, le jeu de dames, comme étant tout de même des activités hautement intellectuelles qui n'exigent pas de façon impérative le langage. Qu'un bon joueur de dames ou d'échecs utilise le langage de temps à autre dans sa pensée, ça me paraît être une évidence, parce qu'il est très difficile pour nous de nous détacher de tout langage, tellement le langage est attaché à notre pensée. Mais ce qui n'empêche que pour la stratégie et pour la tactique même d'un coup aux échecs, c'est plus une opération visuospatiale, compte tenu du pouvoir donné à chacun des pions du jeu d'échecs, qu'un raisonnement qui est un raisonnement d'ordre verbal. Et on s'aperçoit que les aphasiques, chez lesquels la pensée verbale est vraiment très désorganisée, on en voit par une multitude de tests ou d'épreuves analogues à celles dont je viens de donner un exemple pour le chaperon rouge, eh bien qu'ils peuvent réussir, mais parfaitement, des opérations aussi difficiles que de jouer aux dames, jouer aux échecs et réaliser une série de tests et d'épreuves qui sont cotés en psychologie expérimentale comme étant de bons témoignages de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on appelle même, l'intelligence non-verbale, n'exigeant pas un facteur linguistique. Et alors, plus les études sur l'aphasie se sont avancées dans ces directions-là, donc d'application de la psychologie expérimentale, votre discipline, à notre population pathologique, et plus il ressort le fait suivant, c'est qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre sévérité de l'atteinte des capacités linguistiques et puis atteinte de l'intelligence. Il peut y avoir n'importe quelle forme d'aphasie, et puis, mettons à côté, juxtaposé à celle-ci, le respect ou l'atteinte de l'intelligence. Car l'intelligence n'est pas toujours respectée. Et s'il y a une corrélation, ce n'est pas avec l'aphasie, mais c'est avec la localisation de la lésion. Lorsque la lésion est purement temporale, elle détruit le langage, c'est vrai, mais si elle s'étend à d'autres régions de l'hémisphère gauche, en particulier la région pariétale, alors c'est exact que cette région dont on sait que elle est l'espèce de grand lieu de synthèse de toutes les informations qui nous viennent du monde extérieur et aussi d'élaboration de toutes les réponses vers le monde extérieur, alors oui, il y a en plus de l'aphasie une atteinte très profonde de toutes les activités opératoires non linguistiques.
Le langage et la pensée, c'est le thème du dialogue de ce soir qui réunit Marc Richel, titulaire de la chaire de psychologie expérimentale de l'Université de Liège, et François Lhermitte, professeur à la faculté de médecine de Paris, chef du service de neurologie et de neuropsychologie à la Salpêtrière. Nous écoutons la suite de ce dialogue. Marc Richel.
Il est clair qu'on a quantité de données, à commencer par les remarquables données de l'école Piaget, n'est-ce pas, sur le développement de la pensée, qui démontrent aujourd'hui, de façon qui ne me paraît plus discutable, que le développement de la pensée de l'enfant, le développement cognitif, prend naissance bien avant qu'on ne puisse parler au sens strict de développement du langage. Et parallèlement, on assiste au cours de la fin de la première année, la seconde moitié de la première année, peut-être même déjà plus tôt, selon les critères que l'on prend, à un développement de ce qui deviendra le langage, qui est tout à fait indépendant ou très indépendant du développement cognitif. Par exemple, chacun connaît ces activités de babillage écolalique, n'est-ce pas, dans la relation mère-enfant, qui sont caractéristiques de la seconde moitié de la première année. Voilà des activités vocales qui jouent certainement un rôle important dans la genèse de l'activité linguistique de l'enfant, et qui n'ont pas grand rapport avec la genèse de toutes ces conduites sensorimotrices que Piaget a très bien décrites et qui aboutissent par exemple à des notions comme celle d'objet permanent, pas mise en évidence par ces très jolies expériences où l'on cache un objet, on s'aperçoit à partir d'un certain moment que l'enfant cherche l'objet sous un écran ou le suit derrière un écran, ce qui ne survient pas avant l'âge de 10 mois grosso modo. On peut donc dire, et là je reprends la formule d'un psychologue russe qui a fait des contributions jadis très remarquables à ce problème de la pensée du langage, Vygotsky, on peut donc parler d'un développement pré-linguistique de l'intelligence, oui, et parallèlement d'un développement pré-cognitif ou pré-intellectuel, oui, du langage. Et à un moment donné, bien sûr, très tôt dans le développement du sujet normal, ces deux orientations vont se rejoindre, elles vont converger pour s'épauler mutuellement, se complémentariser et aboutir à une forme d'intelligence qui se passe difficilement du langage et un langage qui est intelligent, si vous voulez. Pas et alors, que l'on puisse retrouver dans des situations pathologiques une certaine dissociation me paraît tout à fait conforme à ce que nous savons de l'ontogénèse. Et maintenant, je voudrais vous poser une question sur un des sujets les plus passionnants, me semble-t-il, en tout cas pour le profane, je ne sais pas ce qu'il en est de votre point de vue, de la neurologie contemporaine. Vous nous avez rappelé que le langage trouvé avait son siège dans l'hémisphère gauche, généralement. Il existe des situations par chirurgie ou éventuellement par détérioration des tissus. Les deux hémisphères sont déconnectés. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur les relations entre la pensée et le langage dans cette extraordinaire situation de cerveau dédoublé, comme on l'appelle?
Oui, c'est une situation extraordinaire, mais extraordinaire, dont la connaissance est très récente. Elle nous vient des États-Unis parce que certains neurochirurgiens, se fondant sur la fréquence avec laquelle des foyers épileptiques se projetaient d'un hémisphère à l'autre, qu'il y aurait peut-être intérêt pour ces épileptiques à ce que leurs deux hémisphères se trouvent séparés l'un de l'autre. Vous savez qu'il existe un hémisphère droit, un hémisphère gauche, et qu'entre les deux, il y a un très grand pont de passage, on l'appelle le corps calleux, mais c'est en fait, du point de vue fonctionnel, c'est un grand pont de passage qui fait que toute information parvenant à n'importe quel point de l'hémisphère droit est aussitôt transférée dans l'hémisphère gauche. Et vice-versa, que toute information parvenant dans l'hémisphère gauche rejoint l'hémisphère droit, en sorte que nos deux hémisphères, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on puisse du tout départager par l'introspection, ce qui revient à l'un ou à l'autre hémisphère fonctionne de façon simultanée et tout à fait alliée, l'un à l'autre. Or, dans la mesure où on a coupé ce grand pont de passage, on a séparé l'activité de l'hémisphère droit d'avec l'activité de l'hémisphère gauche. De telle sorte que, si l'on met un objet dans la main droite d'un sujet ayant subi cette intervention, les informations perceptives, tactiles vont parvenir à l'hémisphère gauche, puisque vous savez, c'est croisé, et que la main droite est reliée à l'hémisphère gauche, et la main gauche à l'hémisphère droit, eh bien, ce sujet immédiatement va dire, il s'agit d'un briquet, il s'agit d'une pipe, il s'agit d'un verre, il s'agit de tel ou tel objet, peu importe. Et il dira aussitôt le mot. Lorsqu'on lui met les mêmes objets dans la main gauche, bon, il les palpe et il ne donne aucune réponse verbale. L'information ou les informations sont bien parvenues dans l'hémisphère droit, oui, mais ne pouvant plus passer dans l'hémisphère gauche où se trouvent les circuits du langage, le sujet se trouve dans l'incapacité de dénommer, donc verbalement, l'objet qu'il a dans la main gauche. Mais est-ce pour autant qu'il ne l'a pas reconnu? Pas du tout. Il l'a très bien reconnu. La preuve en est, c'est qu'il peut l'utiliser. C'est déjà une connaissance, donc sans langage, ou une connaissance et une reconnaissance, sans langage par l'hémisphère droit, des différents objets qu'il a été appelé à connaître par les expériences de la vie. Alors, on peut faire, à partir de ces sujets-là, ou de ce fait-là, on peut multiplier les épreuves. Je vais m'efforcer de vous en donner quelques exemples qui vont assez illustrer les capacités opératoires, c'est peut-être un bon mot parce que, en dehors de Piaget, il est un peu vague, on pourrait dire aussi intellectuel de l'hémisphère droit, c'est-à-dire d'un hémisphère qui a toujours travaillé sans langage. Avec un artifice technique, mais qui est très simple, même pas la peine de le décrire, il suffit que vous me croyiez sur parole, on peut parfaitement envoyer des informations visuelles à ces sujets dans l'hémisphère gauche seulement ou dans l'hémisphère droit seulement. Alors, imaginez qu'on adresse à l'hémisphère gauche un objet comme par exemple une fourchette. Et il va dans l'hémisphère gauche, bien entendu le sujet dit c'est une fourchette, et si on lui demande avec sa main droite de trouver un objet similaire, pas le même, mais similaire, il trouvera très facilement la cuillère, le couteau, c'est-à-dire un objet appartenant à la même catégorie. Très facile. Ça ne surprend personne, parce qu'effectivement, il a reconnu que c'était une fourchette, je crois que j'avais dit, et il va donc pouvoir, grâce au langage, à la valeur sémantique du langage, à la possibilité de catégoriser une série d'objets dont, mettons, l'utilisation est semblable, il va pouvoir ainsi rassembler des objets de même nature, autrement dit de même valeur sémantique. Eh bien, le sujet réalise exactement les mêmes performances lorsqu'on lui adresse de telles informations uniquement dans l'hémisphère droit. Je cite un exemple pour être plus précis. On lui envoie dans l'hémisphère droit une clé de contact de voiture. Et on lui demande avec sa main gauche, donc c'est toujours l'hémisphère droit qui travaille, aucune communication avec l'hémisphère gauche, pas de langage pour dire ce qu'il a vu et qui n'a été que dans l'hémisphère droit. Et parmi les objets qu'il ne voit pas et qu'il palpe avec sa main, on lui demande d'aller retrouver un objet similaire. Il a la possibilité de trouver une multitude de tout petits objets qui ressemblent à la clé de contact. Il ne les prend pas. Il ira prendre la grande clé de cave, qui est grande comme ça, et qui morphologiquement n'a plus aucun rapport avec la clé de contact, mais qui a un rapport sémantique, je dirais même plus, qui a un rapport au niveau du concept. Donc, l'hémisphère droit sans langage est capable d'élaborer des systèmes qui, dans l'hémisphère droit, sont au niveau de quelque chose très élaboré du point de vue conceptuel, qui est le concept. Je fais juste une toute petite digression pour dire que ceci ne me paraît pas très surprenant, parce qu'il y a déjà assez longtemps que les expérimentalistes ont démontré, en particulier chez le singe, que l'on pouvait conditionner le singe à une multitude de triangles et lui permettre d'extraire, indépendamment de tout langage, car le singe n'a absolument pas le langage humain, et que le singe pouvait extraire le concept du triangle. À noter en passant que lorsque Kant a donné un exemple de ce qu'était le concept, il a justement choisi le triangle. Or, le singe est capable d'extraire cette notion conceptuelle d'une multitude de formes qui n'ont en commun que d'être une forme géométrique à trois dimensions. Eh bien, l'hémisphère droit est capable d'un tel niveau d'opération conceptuelle. Mais il y a plus. C'est assez difficile à décrire verbalement, mais pourtant essayer de le faire dans un temps court, c'est l'expérience suivante. Vous mettez sous les yeux de ce patient un grand carton sur lequel seront disposées un certain nombre d'images, et sur chacune de ces images, il y a des séries de points. 2, 3, 4, 6, 7, 8 points. Et tout ça aligné sur une ligne ou deux lignes de façon très régulière. Bien, il y a un certain nombre de points alignés, ayant donc une certaine disposition spatiale. Vous envoyez dans l'hémisphère gauche des petits carrés en un quart de seconde. Hein, des petits carrés avec 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points. Mais au lieu d'être disposés linéairement comme ça les présentait sous leurs yeux, Ceci leur est présenté de façon aléatoire, comme une projection de petites tâches. Et puis vous demandez à l'individu de montrer le même nombre de points sur les cartons qu'il a devant les yeux, le même nombre de points, mais dans une autre répartition spatiale qui est celle linéaire dont je parlais. Alors, voilà la surprise que j'ai eu l'occasion d'observer chez une patiente qui avait non pas une intervention chirurgicale du corps calleux, mais une destruction par un accident vasculaire ou plusieurs accidents vasculaires du cerveau, du corps calleux. Le fait est absolument indiscutable, c'était la réplique des observations vues par les chirurgiens américains. Lorsqu'on lui adressait ces petits cartons avec un certain nombre de points disposés de façon presque au hasard, et qu'on lui demandait de reconstituer le même nombre de points, mais dans une autre disposition spatiale, dans l'hémisphère gauche, échec à partir de 3 points. À partir de 3 points, elle était complètement perdue. On lui a adressé les mêmes petits cartons avec les mêmes flashs, jusqu'à 7-8 points, performance normale. Ah, c'est tout de même saisissant. On projette 7 points disposés au hasard sur un carton en un quart de seconde. Et l'hémisphère droit, qui n'a pas de langage, est capable sans difficulté de retrouver sur les cartons que l'hémisphère droit regarde après, de retrouver exactement le même nombre de points, mais présentés de façon différente. C'est une opération, je dirais pas qu'elle est peut-être d'un haut niveau intellectuel, mais d'une complexité extrême. Le sujet normal, les sujets normaux que nous sommes tous ici, nous pouvons le faire, mais nous ne savons pas comment nous le faisons. Ce que des malades tels que l'exemple que je rapporte ici apporte comme enseignement, c'est que nous le réalisons non pas avec l'hémisphère gauche, mais avec l'hémisphère droit. Alors ceci permet peut-être une réflexion plus profonde, à savoir que si nous ne le réalisons pas par l'hémisphère gauche, c'est que dans l'hémisphère gauche, la puissance du langage est telle que toutes les informations sont aussitôt, mais aussitôt, traitées en termes de langage. Et que si l'on essaye de traiter en termes du langage des projections d'un certain nombre de points, ceci aboutit à les compter. Si on les projette pendant un quart de seconde, vous pouvez en compter 3, vous ne pouvez pas en compter 7. Et que le langage devient en quelque sorte, alors malgré la puissance devant laquelle je m'incline, du langage quant à la pensée, devient une entrave pour certaines autres activités opératoires, en particulier des activités opératoires visuelles. Il y a le même phénomène qui s'observe pour ce qui est de l'identification des visages. L'hémisphère droit est beaucoup plus fort que l'hémisphère gauche. Alors je ne peux pas, à cause de l'heure, et puis la multitude de sujets qu'on a peut-être encore à explorer, m'étendre là-dessus. Mais j'aurais tout de même vous faire une remarque. J'ai essayé à plusieurs reprises, devant mes collaborateurs, de décrire un visage. Alors j'ai pris un homme célèbre, je ne veux pas le faire devant vous, ça prendrait trop de temps. Mais je peux vous dire que si vous avez soin d'éviter des détails qui n'appartiennent pas au visage, la moustache, la barbe, un grain de beauté, des lunettes, eh bien essayez, devant vos intimes, votre entourage, de décrire un visage, vous ne le pourrez pas faire reconnaître. Rien n'est plus difficile à traduire en termes de langage que la physionomie. Or, ce qui est instructif, c'est que la pathologie du cerveau nous apprend que la région du cerveau qui traite les physionomies, et Dieu sait si l'on peut en reconnaître une quantité innombrable, certainement beaucoup plus d'un millier, la pathologie nous apprend que c'est l'hémisphère droit qui les traite. Car la perte de l'identification des visages, ceci existe, c'est un syndrome qui est très connu en neurologie, il ne s'observe que dans les lésions de la région visuelle droite. C'est-à-dire d'un hémisphère qui n'a pas le langage. Alors je voudrais arriver à la conclusion de cette chose-là, c'est que l'idée générale qui s'en tire, c'est que le langage écrase l'hémisphère gauche, qu'à l'inverse, n'existant pas ou presque pas dans l'hémisphère droit, il laisse des possibilités d'élaboration fonctionnelle, d'épanouissement fonctionnel, en particulier pour ce qui est visuel, et sans doute aussi pour ce qui est musical, des possibilités de développement fonctionnel très supérieures à ce qui existe dans l'hémisphère gauche. La pathologie cérébrale semble nous montrer que l'hémisphère droit, que l'on considère comme l'hémisphère mineur, est en réalité un hémisphère très riche, mais dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la pensée verbale.
Marc Richel.
Vous avez parlé de la connaissance des visages.
Oui.
Les visages, bien sûr, c'est souvent les visages d'autrui, encore que notre propre visage est sans doute aussi de grande importance dans notre existence, n'est-ce pas ? Est-ce que le langage serait finalement une entrave à la véritable connaissance de soi ?
François Lhermitte.
Non, sûrement pas. Je crois que ce que l'on peut localiser dans le cerveau, ce sont vraiment des données très instrumentales. Alors, au-delà des instruments, il y a des possibilités, donc, de systèmes, quelquefois très élaborés, avec ou sans langage, qui sont préférentiellement dans l'hémisphère gauche ou bien préférentiellement dans l'hémisphère droit. Bien. Mais quand il s'agit de localiser le moi, alors, vous dépassez les possibilités du neurologue. Pour moi, le moi, c'est dans la totalité du cerveau. Je peux le placer nulle part. Je ne peux le réduire à aucune région du cerveau. C'est évidemment la totalité de la masse cérébrale, ça c'est sûr.
Ça dépasse aussi la possibilité du psychologue expérimental, rassurez-vous, n'est-ce pas ? Ce qui me paraît quand même important de noter lorsqu'on parle des relations entre langage et pensée, c'est que la connaissance de soi, c'est souvent considéré comme une forme de pensée aussi. Elle est sans doute très largement fondée sur le langage.
Oui.
Et ce qui est paradoxal ici, c'est que le langage a dû émerger essentiellement comme un instrument de communication. On imagine mal que le langage soit né à travers l'évolution biologique pour nous permettre de nous introspecter, n'est-ce pas ? C'est peu vraisemblable. Alors on se trouve ici en présence d'un instrument qui est au départ essentiellement un instrument de communication sociale, avec sans doute des fonctions essentiellement pragmatiques, pas de faire comprendre quelque chose à autrui, de communiquer des messages, etc.
C'est ça, oui.
Et qui, à l'aboutissement de l'évolution culturelle, ou en tout cas au point où nous en sommes actuellement, et déjà depuis pas mal de temps sans doute, devient l'instrument privilégié de la prise de conscience de soi, de la connaissance de soi-même, et finalement de ce que la vie intérieure peut peut-être avoir de plus intime. Alors il y a là un paradoxe très intéressant dans l'exploitation que l'humanité a fait de l'instrument verbal.
Croyez-vous qu'il soit possible de prendre connaissance de soi de façon quelque peu approfondie en dehors du langage? Moi, je n'en ai pas le sentiment, j'ai plutôt l'impression que le langage, là, est vraiment l'outil privilégié pour essayer de s'engager dans cette aventure qu'est la connaissance, d'ailleurs des autres aussi, des autres et de soi. Je suis loin de vouloir attaquer le langage. Sans le langage, la pensée humaine ne serait évidemment pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Nous sommes d'accord. Et le langage est tout de même un outil extraordinaire, peut-être sûrement même plus qu'un outil, pour permettre à la pensée de s'élaborer au-dessus des domaines concrets de la stimulation que l'on reçoit et des réponses que l'on rend. En particulier, ce que vous avez dit sur la connaissance de soi, moi, à mon sens, ne peut pas passer indépendamment du langage. Et même, vous voyez, dans des écoles de pensée assez particulières comme la psychanalyse, il passe aussi par le langage. Et lorsque l'on essaye, je ne sais pas si ça a quelque réalité scientifique, mais tout de même d'essayer d'aller plus loin que les couches du conscient et de laisser émerger quelque chose qui viendrait du moi ou du ça, c'est tout de même par l'intermédiaire du langage. Et je ne vois pas quel est l'autre véhicule, mettons, pour pouvoir transmettre à soi-même ou aux autres quelque chose qui vient du fond du moi.
Pour moi, ça n'a rien de très original, parce que ce qui me paraît peut-être plus important encore, c'est les formules de Luria, par exemple, qui rejoignent celles de behavioriste comme Skinner, n'est-ce pas ? C'est le langage qui fonde la conscience de l'individu.
Oui, pas c'est vrai.
Et finalement, là, on retrouve une problématique tout à fait fondamentale, pas, de l'individu et sa prise de conscience ne sont jamais, dans leur origine, qu'une affaire de collectivité verbale.
Est-ce que vous m'autorisez tout de même, avant de terminer donc cet échange de vues, de terminer par l'exemple d'une dissociation inverse, c'est-à-dire une pensée perturbée par des lésions organiques du cerveau, alors que le langage est absolument normal. C'est une situation qui est très très intéressante. Elle résulte de lésions qui touchent le lobe frontal droit ou le lobe frontal gauche, peu importe, le résultat est le même. En pareil cas, le langage est absolument, absolument normal. Mais les capacités opératoires du cerveau sont réellement effondrées. Si l'on propose à ce sujet, avec qui vous pouvez converser normalement, vous ne vous apercevrez absolument pas qu'il a une maladie cérébrale. Mais proposez-lui un travail dans lequel il y ait la résolution d'un problème arithmétique, ou qu'il y ait même la résolution d'un problème spatial, c'est-à-dire décomposer une figure dans ses éléments pour la reconstituer avec des petits cubes, et vous verrez que lorsqu'il s'agit de l'analyse des données, de la programmation des actes à accomplir pour résoudre le problème, du contrôle de ces actes à chacune de leurs étapes pour arriver finalement à la bonne solution, eh bien ces patients sont absolument incapables d'exécuter de telles tâches. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et je n'en ai qu'un seul exemple, on pourrait en donner beaucoup d'autres, mais où il y a une désorganisation des activités de la pensée alors que le langage est strictement normal.
Ici prend fin la première partie de cette émission et le dialogue de nos deux invités de ce soir, qui étaient, je vous le rappelle, Marc Richel, titulaire de la chaire de psychologie expérimentale de l'Université de Liège, et François Lhermitte, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie nationale de médecine et chef du service de neurologie et de neuropsychologie à la Salpêtrière. Nos invités sont maintenant prêts à répondre aux questions du public du studio 105. Monsieur.
Quel serait le siège du langage, si on peut appeler ça un langage, du langage mimétique du sourd-muet, puisque ses circonvolutions gauche cérébrales ne sont pas sollicitées par un langage oral. Et inversement, l'aveugle, qui ne reconnaît pas les physionomies que vous disiez, cette connaissance, cette faculté siège dans l'hémisphère droit. Alors, cet hémisphère droit étant disponible du fait de sa cécité, quelle serait l'utilisation de cet hémisphère droit ?
Oui. Il est facile de répondre à la première de vos questions, c'est-à-dire la situation du sourd-muet, sourd de naissance et donc muet par voie de conséquence. Alors, dans ces cas-là, vous savez qu'autrefois, on leur apprenait le langage manuel. Ce langage digital est donc un langage visuel, pour ce qui est de la porte d'entrée sensorielle, et manuel, pour ce qui est de la porte de sortie motrice. Alors, on sait très bien par où ça passe. Ça ne passe pas par le lobe temporal, ça passe par la jonction entre les lobes occipitaux qui reçoivent les informations visuelles, ils voient les gestes, et puis la région rolandique centrale, mettons, du cerveau, qui permet l'organisation du geste en réponse. Et ces sujets-là seraient l'équivalent des aphasiques dans la mesure où une lésion touchant la région pariétale viendrait supprimer les circuits qui sont établis entre la région occipitale et la région rolandique. Alors que notre langage est un langage à porte d'entrée auditive, donc temporale, et à porte de sortie buccale et non pas manuelle. Alors ça, mais ça resterait toujours dans l'hémisphère gauche. Ceci rejoint une de vos préoccupations. Je ne serais pas surpris, si vous voulez, que l'hémisphère gauche soit vraiment le siège prépondérant de tout ce qui est symbolique dans les activités de la pensée. Alors qu'il s'agisse d'une symbolique audiphonatoire comme notre langage, ou bien d'une symbolique visuo-manuelle comme dans le langage ancien de sourd-muet, mais qui est encore utilisé, oui, mais tout ça c'est l'hémisphère gauche sûrement. Alors pour ce qui est de l'aveugle, c'est plus compliqué. Un aveugle de naissance est donc un sujet dont les lobes occipitaux sont normaux, mais au repos, puisqu'ils n'y en reçoivent plus d'informations visuelles. En revanche, cet aveugle de naissance acquiert un langage audiphonatoire, le nôtre, absolument dans les conditions du normal. Alors, ce qui est intéressant à considérer, c'est de voir quel est le développement cognitif de cet enfant dans des épreuves qui ne font pas appel au langage, ou du moins pas forcément appel au langage. Et ceci par rapport aux sourds-muets, qui eux n'ont pas de langage, mais ont une connaissance visuelle du monde extérieur. Alors la réponse à cela est assez, à mon avis, fracassante, mais elle fait réfléchir. Le sourd-muet qui n'a pas de langage n'a guère plus d'un an de retard pour ce qui est des activités opératoires non linguistiques. L'aveugle qui a le langage le plus parfait a jusqu'à 5 ans de retard par rapport à l'enfant normal. Le monde visuel a pour le cerveau humain une importance extraordinairement privilégiée.
Il y a d'autres questions ?
Vous avez parlé du langage comme un moyen de communication. Mais il me semble-t-il que le langage a aussi la fonction, peut-être plus de base, d'ordonner, de classifier le monde. Finalement, dirais-je, de créer les choses. La communication, c'est une fonction, disons, supplémentaire qui vient après. Sans le langage, n'existerait même l'objet de la communication.
Marc Richel.
Oui, vous posez là un problème très important, n'est-ce pas ? Quelle est la fonction primordiale du langage humain ? Depuis longtemps, des philosophes, des linguistes ont souligné dans le langage humain, disons trois, on peut en imaginer plus, n'est-ce pas, mais trois grandes fonctions essentielles. La fonction de communication, la fonction de référence et la fonction d'expression. Votre question laisse à penser que vous privilégiez la fonction de référence. Je ne sais pas si je privilégie la fonction de communication, je crois que je vais peut-être laisser à penser que c'était bien ce que je pensais. Je ne suis pas sûr que nous disposions de données qui nous permettent de savoir quelle était la fonction qui a primé dans l'histoire de l'espèce. N'est-ce pas ? Je serais assez d'accord avec vous pour considérer que la fonction primordiale aujourd'hui est probablement cette fonction référentielle à laquelle vous avez fait allusion. Mais le fait qu'elle joue aujourd'hui le rôle primordial ne veut pas du tout dire qu'elle ait joué le rôle primordial dans l'émergence du système. Je crois que, pour moi, il est facile de comprendre que on ait tiré avantage d'établir de bonnes communications entre soi, exactement comme quantité d'animaux tire déjà avantage de système de communication, et le système de communication, une fois forgé, alors c'est sa valeur référentielle, peut-être, qui s'est révélée la plus importante et la plus utile à l'évolution culturelle de l'espèce. Votre question me fait penser peut-être que vous seriez aussi partisan de cette fameuse interprétation que l'on connaît en linguistique, en psycholinguistique, comme l'hypothèse de Sapir-Whorf, du nom des deux linguistes américains qui l'ont prôné au cours de ce siècle, selon lesquels le langage n'est pas un moyen d'expression de la pensée, mais est véritablement le moule de la pensée. Et nous voyons le monde, notre Weltanschauung, notre manière de voir l'univers, serait dictée par le langage dont nous avons une communication au cours de notre croissance psychologique. Whorf va jusqu'à suggérer que si l'on a fait certaines découvertes scientifiques, si l'on a adopté certaines formes de philosophie dans notre Occident, où on dominait les langues indo-européennes, c'est parce que ces langues indo-européennes nous donnaient une certaine structure mentale. Quand on voit la facilité d'adaptation de gens qui parlent des langues très différentes à ces données philosophiques ou scientifiques que nous avons forgées dans notre culture, on est bien sûr amené à faire quelques réserves sur la généralité de l'hypothèse de Whorf. Il reste qu'elle contient sans doute un certain nombre de données très, très valables.
Je vous remercie de votre réponse. En fait, n'est-ce pas, je crois que le monde paraît d'une façon différente à quelqu'un pour lesquels, par exemple, le mot « neige » n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais il y a 4 mots pour 4 différentes qualités de neige, comme paraît-il existe dans certaines langues, n'est-ce pas ?
Oui, là vous êtes dans un problème un peu différent, n'est-ce pas ? C'est le langage en tant qu'il est le reflet d'un certain milieu et d'une certaine culture. n'est-ce pas ? Il est clair que les gens qui habitent au Sahara n'éprouvent pas beaucoup de besoin d'avoir quatre mots différents pour désigner les types de neige, puisqu'ils n'en voient jamais. Par contre, ils ont un vocabulaire extrêmement riche pour désigner toutes les parties du chameau, toutes les manières dont les chameaux se comportent et mangent, etc., n'est-ce pas ? Ce que les Esquimaux n'ont pas. C'est l'aspect mineur et sans doute tout à fait valide de l'hypothèse de Worf, mais l'hypothèse de Worf va beaucoup plus loin que ça, n'est-ce pas ? Il suggère qu'à travers les structures syntaxiques, par exemple, de la langue, nous sommes en quelque sorte forcés de penser les choses d'une certaine manière. À un point tel que ce serait par exemple les structures syntaxiques de nos langues indo-européennes qui nous auraient empêchés pendant des siècles d'accéder à la théorie de la relativité en physique, n'est-ce pas ? Alors que les Indiahopi, qui constituent son exemple opposé, pas, eux auraient un langage qui les prédisposerait à la découverte de la relativité. Je caricature, mais à peine. Il reste que ce ne sont pas les Indiahopi qui ont inventé la relativité en physique. Ce sont des Occidentaux avec des langues indo-européennes. C'est quand même un peu surprenant. Je pense qu'il ne faut pas simplifier le problème, pas plus qu'on ne peut considérer que le langage est un simple système de traduction de la pensée. Ce n'est pas si simple que cela, et les neurologues nous l'ont très bien exposé. Il ne faut pas aller dans l'excès inverse qui consisterait à assimiler complètement le système de pensée au moule du langage.
Autre question ?
En abordant par exemple la question qui nous était posée, c'est-à-dire, enfin qui vous était posée, le langage et la pensée. En effet, vous avez un peu escamoté au début le problème en disant qu'on ne pouvait pas les définir, ce qui vous a conduit ensuite à réduire par exemple le langage à la parole et la pensée à des mécanismes physiologiques que vous avez décrits assez longuement. Alors, c'est peut-être le moment, justement, de définir le langage, de définir la pensée. Est-ce que le langage est simplement un système de communication ? Est-ce qu'on peut décomposer la pensée, par exemple, suivant la répartition freudienne ou suivant votre propre système de référence ? Enfin, c'est-à-dire répondre à la question « langage et pensée ».
Pouvons passer la nuit ensemble, n'est-ce pas ? Je suis parfaitement conscient que nous avons escamoté une partie des problèmes. Je suis pas sûr qu'il y ait moyen de faire autrement, une heure de temps, n'est-ce pas, sur des problèmes aussi difficiles. Bon, vous avez fait allusion à cette opposition classique entre langue et parole. Nous avons surtout parlé de la parole. C'est possible. Et probablement que par formation et par option méthodologique, aussi bien le neurologue que mon collègue Lhermitte que moi-même, comme psychologue expérimental, nous nous intéressons plus au langage en tant qu'il est manifesté dans des conduites de sujets réels qu'en tant qu'il est un système que l'on peut analyser en tant que tel, ce que font les linguistes. Et ce qui me paraît certain, c'est qu'il faut distinguer d'une part la langue, qui est un système collectif, dont la parole est l'actualisation individuelle. Pour ce qui est de la pensée, nous ne disposons pas exactement de la même opposition. Il y a des quantités de phénomènes que l'on peut décrire dans le cadre de ce terme très général de pensée, qui se situent au niveau individuel, qui n'ont pas d'équivalent au niveau collectif comme le phénomène de langue. Et là, je crois qu'effectivement, l'image qu'un neurologue et un psychologue d'orientation expérimentale ont pu vous donner ce soir est bien sûr infiniment moins rassurante et moins élégante que l'image que certains théoriciens de la linguistique, je pense à quelqu'un comme Chomsky par exemple, n'est-ce pas, peuvent vous donner concernant les relations entre pensée et langage. Ça me paraît beaucoup plus facile d'établir une sorte de théorie des relations entre ces deux choses, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à partir du moment où on se donne, où on escamote les définitions, n'est-ce pas. Et moi, je les escamote en disant que c'est pas possible d'en donner de simples. Je crois que Chomsky a pris une autre voie. Il adopte des définitions qui lui paraissent aller de soi, et puis n'en parlons plus. À partir de ce moment-là, les relations deviennent formellement relativement faciles à établir. Alors, tout ce que je peux dire, mais M. Lhermitte aura peut-être mieux à dire que moi à ce sujet, c'est que moi, je suis désolé de vous avoir déçu sur ce point, mais je ne crois pas que dans l'état actuel de nos connaissances, nous puissions faire autre chose que ce genre de balbutiement.
sais pas, ou bien alors ce serait de la métaphysique.
Justement, je me de d'avoir élevé un peu le débat en surmontant la simple description physiologique, ce que vous appeliez le réel biologique, en montrant qu'il y a des aspects culturels qui peuvent s'ajouter à cette à ce qui apparaissait comme une nature humaine.
Oui, là, ça ne fait pas de doute. J'espère ne pas les avoir niés, ces aspects culturels. Hein. On l'aurait pu parler encore très longtemps, par exemple, la question de savoir quelle est la part du culturel et la part de l'inné dans le langage. Pas. Ça aussi, ça pourrait occuper plusieurs soirées. Nous ne savons pas grand-chose sur ce qu'est le langage en deçà de la culture, ou à l'aube de la culture. Il est vraisemblable que l'homme s'est dissocié des autres espèces par le phénomène culturel, et que le phénomène culturel est lui-même la résultante d'une part d'un accroissement des capacités d'apprentissage tout à fait général, de la fabrication de l'outil, d'un certain type de structure sociale, et enfin de l'outil linguistique, mais pas l'outil linguistique tout seul, probablement tout cela mis ensemble. Alors le langage a joué là-dedans un rôle absolument extraordinaire, n'est-ce pas, comme moyen d'analyse du réel, comme système d'amplification de la communication, comme système de stockage mnésique, n'est-ce pas. Bon, on a là toute une série de choses qui se tiennent, mais dont aucune n'est à elle seule et en elle-même à l'origine des autres. Pas. Je crois qu'il y a un système de convergence et d'interaction, et qu'on ne comprend vraiment le phénomène de l'évolution culturelle que si l'on le prend comme un phénomène résultant de plusieurs éléments et pas comme un phénomène déclenché par un élément que serait le langage, comme certains ont voulu le penser.
François Lhermitte.
Moi, j'aimerais bien aussi répondre à votre question. D'abord, ne croyez pas que nous ayons été préoccupés par la parole et non par le langage. Ce serait que je me serais très mal fait comprendre, parce que la parole a un intérêt sur la motricité buccofaciale, mais c'est tout à fait accessoire. Ce qui compte, c'est le langage. Alors, ceci étant, il est bien évident pour nous tous que si l'enfant ne possédait pas le langage, le développement de son intelligence et de sa culture ne pourrait sûrement pas se faire comme il se fait maintenant dans le monde actuel. Ça paraît être une évidence telle que lorsque l'on pose la question « Peut-on penser sans langage ?», la réponse généralement recueillie de la part d'un public cultivé, c'est presque un haussement d'épaule en disant bien évidemment que non. On ne peut pas penser sans langage. Or, la réponse, au contraire, c'est un oui, et un oui à l'évidence. Mais bien sûr, pas dans n'importe quel domaine de la pensée. Dans certaines activités de pensée, et je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une pensée plus élevée que celle qui peut s'exprimer ou qui exige le langage. Pas du tout. Mais comme le dit très bien Piaget dans presque toute son œuvre, à partir d'un certain niveau d'élaboration de la pensée, le langage devient nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante au développement ou même à l'explicitation de la pensée. Alors ce qui m'intéresse peut-être un peu davantage, c'est justement dans quelle mesure on peut essayer de s'apercevoir d'une certaine pensée de très haute qualité qui se passe de langage. Alors le hasard des choses a fait que j'avais apporté avec moi un petit document que vous connaissez tous, mais si vous me donnez 2 minutes, il ne faut même pas 2 minutes, je voudrais vous le lire, si vous rappelez quelque chose qui est très connu. Très très connu, mais si on essaye de réfléchir à ces quelques 25 lignes, pour savoir dans quelle mesure la pensée qui se trouve forcément exprimée en langage, puisque c'est un morceau de prose que je vais relire, dans quelle mesure s'agit-il d'une multitude de pensées qui ont exigé le langage ou qui ne l'ont pas exigé. La question se pose. Bon, c'est le dernier paragraphe de la petite Madeleine de Proust. Vous vous rappelez le début, j'en arrive au dernier paragraphe. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de Madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre, s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières. et avec la maison la ville, depuis le matin jusqu'au soir, et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Je vous assure, ça donne à réfléchir, cet extraordinaire foisonnement d'images et de sentiments et de rappels du vécu, où est la place du langage, en dehors, bien sûr, du génie pour l'exprimer.
Avec le public du studio 105 de la Maison de Radio France, François Lhermitte et Marc Richel ont débattu des rapports entre langage et pensée. Diffusé en octobre 1975, il s'agissait du troisième de quatre dialogues de France Culture proposés par Roger Pilaudin.